Savourez nos différences. Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture un mercredi sur deux sur Radio G. Salut les gars.
Salut Seb.
Salut à tous.
Eh oui, salut.
Comment ça va?
Bon, ça va pas mal et vous?
Il y a du soleil, dis donc.
Ouais.
On n'avait pas vu.
On n'est pas trop mal.
Alors, c'est bien. Ce soir, émission spéciale western, hein, puisqu'on a des émissions thématiques depuis la rentrée sur tout type de sujet, à vrai dire.
Tout à fait.
La France.
C'est vrai.
Bientôt les dystopies post-apocalyptiques.
Ouais, et dans 15 jours.
C'est pointu ça.
C'est ça. Non, et aujourd'hui,
le western, parce qu'on voulait parler de tout ce qu'on aime, comme d'habitude, des films, des séries, des bandes dessinées, autour de cet univers impitoyable.
C'est ça.
Impitoyable, très bon film, dont on parlera tout à l'heure.
Tout à fait.
Et ouais.
Alors, on fait un coucou à Seb.
Bah oui.
Il n'est pas là ce soir.
On l'embrasse.
Il sera là dans 15 jours, bien évidemment, pour votre plus grand plaisir.
Et même à Tony, qui inspire beaucoup de thématiques d'émission. Qui...
T'étais où? Pas là.
Pas là, c'est ça.
C'est ça.
Tony alias Casper.
Ouais, non, mais il se cache. Dans le Far West.
C'est ça, oui.
Ah oui, il est dans le Far West.
Il est dans le Far West, faut aller le chercher.
T'as carrément raison. Donc voilà, on embrasse tous les auditeurs, toutes les auditrices qui sont fidèles à Radio G, mais aussi à Geek Mafia.
Tout à fait. Et puis, au-delà de nos frontières.
Au-delà même en Espagne.
Et oui.
On en parlera, puisque beaucoup de westerns ont été tournés en Espagne.
Ah oui, c'est possible.
Bah oui.
Et donc, on va démarrer l'émission comme d'habitude avec un morceau de musique. C'est pour Seb qui n'est pas là pour lui faire plaisir parce qu'on l'aime beaucoup.
C'est vrai.
On va écouter MC Solar, parce qu'il nous en a beaucoup parlé dans l'émission consacrée au rap
et au hip-hop, bien sûr.
Exact. Et on va écouter évidemment.
Nouveau western.
Très bon. Est originaux.
Mais oui, mais
incroyable.
On est dans le thème.
On est bien dans Vente Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
C'est parti.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke. Propre comme un archiduc, on peut Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mégara, Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien. Scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, soupe, des types se baignent. Pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal dicte le bien le mal. Le Kubrick et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rouille et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit téléchit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Cauchy. Calamity Jane. James West. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le kill. Billy the kill. Miguelito Loveless. Loveless.
Creature Shock Radio FM.
Et voilà, c'était un petit solar sur Band Geek Mafia, les gars. Alors, on est sur le western, et donc on a dit qu'on allait peut-être commencer une petite intro vite fait, hein, pour vous dire qu'est-ce que le western. C'est un genre cinématographique, mais pas seulement. C'est un genre évidemment aussi littéraire et graphique, on va en parler, dont l'action se situe dans le Far West américain, et qui illustre certaines étapes de la conquête de l'Ouest, des territoires sur les Indiens, plutôt dits maintenant Amérindiens ou autochtones, nations autochtones. Historiquement, entre la seconde moitié du 19e siècle et 1910, hein, c'est ça à peu près, je crois.
Alors moi je fais des techniques.
Ouais, mais.
Non, je blague. Alors oui, les
westerns. Une petite question historique.
Effectivement, le western, c'est la conquête de l'Ouest, en fait, en français. C'est le Far West, parfois on dit aussi. Donc ce sont les colons américains qui avancent sur le territoire. Ils sont arrivés à l'Est, hein, bien sûr, première colonie. Et puis ensuite, ils avancent, on parlera. Peut-être un peu plus précisément des natifs, hein, des autochtones, des indiens comme on les appelait autrefois. Et ils avancent, ils prennent des territoires. Et donc là on est vraiment sur le grand 19e siècle, quoi. Ça démarre à fin du 18e, tout le 19e, début 20e même.
D'accord.
C'est une période très importante dans l'histoire des États-Unis.
C'est bien plus vaste que ce que je disais, ouais, mais carrément.
Un grand 19e siècle. Mais c'est vrai que par contre, je comprends Pablo pourquoi tu dis ça, parce que dans les films, d'ailleurs on entend ici, il était une fois dans l'Ouest. On est toujours à peu près soit au moment de la guerre de sécession,
c'est
en 1860-65, ou après.
Ouais, tout à fait.
Dans la deuxième moitié.
Avec les confédérés. Ouais.
Voilà, c'est ça, c'est la guerre civile, on dit aux États-Unis, la guerre de sécession. Et donc, on a souvent des westerns qui se passent dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais en fait, c'est plus large que ça.
C'est beaucoup plus vaste. C'est parfait. Ouais, alors il y a aussi des grandes thématiques, hein, qui sont communes aux westerns. Par exemple, la ruée vers l'or. L'installation du chemin de fer ou du train, hein, dans les terres de l'Ouest, la mise en place de la loi, la guerre civile, tu en parlais Seb, la guerre de sécession américaine, et puis bien sûr l'expansion de la civilisation, entre guillemets, sur les terres sauvages, encore entre guillemets. Puis bien sûr, la thématique des cow-boys, des trappeurs, des indiens, encore entre guillemets. Et puis bien sûr, les guns, les armes à feu. Voilà. À peu près tout ce que j'ai pu recenser qui fasse le western, les gars.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Le western, c'est tout ça. Merci, Pablo. Belle intro.
Merci. Alors du coup, maintenant, la question qu'on se posait, c'était quel est votre premier contact avec le western, les gars?
Alors moi, c'est Eddie Mitchell, la dernière séance, le mardi soir.
C'est vrai.
Et oui, on n'avait pas d'école le mercredi matin, donc on avait l'autorisation plutôt des parents de regarder la dernière séance le mardi soir. Et donc, il y avait beaucoup de western, parce que Eddie Mitchell, c'est lui qui choisissait les films, je pense. C'était un gros fan de cinéma américain en particulier, donc de ces films-là. Donc, La Flèche Brisée... tous ces films incroyables.
Et John Ford.
Ouais, John Ford, John Huston. Et puis, bien sûr, moi, j'ai découvert un peu après, mais c'est ce que j'ai préféré, évidemment. On vient d'écouter la musique des New Morricone, mais bien sûr, c'est la trilogie du dollar. Avec le grand.
Clint Eastwood. Ah oui, c'est ton demi-dieu, là. Attends.
On
touche à une icône.
Donc, vous connaissez tous ces films, pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, pour quelques dollars de plus, voilà.
Et pour quelques dollars.
Et tout à fait.
Et qu'on oublie à chaque fois.
Tout à fait. Et donc, voilà. Pour moi, c'est ça, la découverte du western, quoi. C'est à la télé.
Ouais. C'est vrai, t'as raison.
Puissant.
T'as raison.
Vas-y.
Eh ben écoute, pour moi c'est pas mal de choses, mais c'est assez, il y a un peu de tout. Évidemment, il y a les films que tu cites. Évidemment, il y a les images iconiques de ces films-là. Hein, et puis Eastwood jeune, ce regard un peu pénétrant comme ça. Vraiment, il y a tout ça. Il y a aussi, mais on le citera, je pense un peu plus tard, la BD avec Lucky Luke, bien sûr.
Bien sûr.
Il y a quoi d'autre encore? Figurez-vous, quand j'étais jeune, ce qui me faisait rêver aussi, à Euro Disney, à Paris, Disneyland Paris, il y a Frontierland, qui est tout un quart du parc qui est dédié à l'univers du western. Donc c'est pareil, ça me faisait rêver.
Ça me fait penser à Westworld. Tu sais, on en parlera peut-être de la série qui en fait parle. Enfin, on croit que ça se passe au Far West, mais c'est plutôt un parc d'attractions.
C'est un parc d'attractions.
Ouais. Bah d'ailleurs, on y reviendra peut-être après pour autre chose. Mais et puis aussi plus récemment, j'ai envie de dire des films comme Django Unchained que j'ai trouvé absolument qui m'ont énormément plu, quoi. Bien sûr. Et cet univers-là a toujours été un petit peu. C'est assez agréable à suivre, quoi, bien entendu. Et puis un jeu vidéo, et je finis avec ça. Red Dead Redemption, qui est vraiment pareil, quelque chose d'assez, qui reste dans les mémoires. Voilà pour moi.
Juste, si je peux rajouter un petit mot, parce que tu as parlé de Django Unchained, c'est vrai que Tarantino, finalement, il a un peu redonné. C'est l'aide de l'homme. Non, j'exagère, parce qu'en fait, il fait du Tarantino.
Un peu d'éclat, en tout cas.
Ouais, un peu d'éclat western, parce qu'il a quand même fait. Donc Django Unchained et puis The Hateful Eight, qui est aussi un western.
Tout à fait.
Mais finalement, il intègre ce genre dans sa filmographie un peu.
Et on peut même dire que dans son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, il rend hommage en fait au western et notamment aux acteurs de série B, mais au western. Hein.
On va parler de Rawhide.
Ouais, super. Bah tu vois, ça enchaîne. Bah, vous avez quasiment tout dit, les gars. Moi, c'est vrai que. Je rajouterais juste Blueberry aussi que j'ai adoré adolescent quand j'ai découvert ça. Moi, c'est vrai qu'il y a un souvenir d'enfance. C'était à Paris, mon père m'amenait dans des petites salles voir ces westerns parodiques italiens. Trinita, on l'appelait Trinita. Ah, oui, mon nom est Trinita.
Avec Terence Hill et Bud Spencer.
C'est ça. C'est des films.
Mon nom est personne.
Voilà. Oui, absolument.
C'est des films assez incroyables, plutôt drôles en fait. J'imagine que c'était pas mal pour un enfant de voir du western un peu qui était pas sanglant.
C'était une porte d'accès en quelque sorte au genre.
C'est ça. Et après, comme vous, les Sergio Leone, et puis plus tard, quand même, les classiques un peu. Et j'avoue que j'ai encore beaucoup de lacunes. Mais je ne désespère pas, en tout cas, c'est vrai que...
Il n'est jamais trop tard pour un bon.
Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que moi, mon père, mes oncles, enfin les gens de la génération précédente, ils adoraient les westerns.
Ils en regardaient
tout le temps.
Tout à fait.
Ah, on est d'accord.
Hein. Ouais, tout à fait.
C'était vraiment générationnel.
C'était plus ancré.
Mais ils nous ont transmis un peu le
goût fait.
Et puis c'est vrai que tu avais cette émission dont tu parlais de Eddie Mitchell qui était magnifique.
C'était la dernière séance.
avec une ambiance, avec sa voix, avec sa présentation, qui était incroyable. Et puis je me rappelle aussi, bah alors après moi je sais pas si on peut le classer dans un western, mais je regardais beaucoup les Zorro. J'ai toujours été fasciné par ce personnage.
Voilà.
Et ben c'est le sud de la Californie. Et ouais.
Et la cape.
Voilà.
Puis il y a le décor un peu aussi. Et tu sais, même j'ai envie de dire, alors évidemment c'est moderne tout ça, mais l'univers un peu du chasseur de primes, finalement ça revient aussi un peu. Tu sais, cet imaginaire du chasseur de primes qui était souvent, tu vois, avec Dead or Alive et ainsi de suite, ça a été réutilisé et modernisé dans plein de styles, mais au final ça a aussi emprunté ce style. Là,
les Wanted,
voilà.
Oui, dans les films policiers par exemple.
Tout à fait.
Mais justement, puisque tu en parles, enchaînons là-dessus, parce que il me semble que c'est quand même une des thématiques que j'ai pas citées, mais qui est très présente, tu sais, la mise en place de la loi, et notamment les chasseurs de primes, qui sont un peu entre les deux,
bien
quand
sûr.
Même, les gars. Et là, on passe. Seb vient de nous mettre la musique de Django Unchained, que tu citais tout à l'heure.
Ouais. Tout à fait.
Bah, c'est l'histoire d'un chasseur de primes, quand même. Ou de deux chasseurs de primes.
Ouais.
À toi, Romain.
Eh ben moi ça y est, je pense que j'ai
une petite pause musicale.
Ouais,
voilà. C'est comme vous voulez, les gars.
Ouais,
une petite respiration. Alors ça, c'est donc la musique de Django Unchained. On vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, et bien évidemment. Et donc on s'est fait une petite playlist, mais vraiment, elle est formidable.
Aux oignons,
aux petits oignons,
c'est ça.
Alors. Moi, j'avais envie de faire plaisir à nos auditeurs, surtout à nos auditrices, qui nous ont demandé, Sarah, Florence, est-ce que tu aimes la chanson d'Arthur H et de M, qui parle des westerns, justement.
Exactement.
Qu'en pensez-vous? Ouais, est-ce que ça vous tente?
C'est
on va
très
l'écouter
sympa.
Avec plaisir.
Allez,
péchu.
On fait plaisir.
Et on les remercie pour la
suggestion. Et vous êtes dans le Band Geek Mafia.
On sur Radio Jazz. 101.5.
La radio qui vous prend.
Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif?
Oui, j'aime.
Okay. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche
en une sublime squaw? Oui, j'aime.
Bon, alors, nous irons vivre libre, dans un pays sauvage. Et nos armes seront. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Sonner les serpents à sonnette.
Serpent à sonnette.
Serpent à sonnette.
day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Oh yo, eh ben ouais, donc c'était magnifique, M et Arthur H. Donc on va parler là des, on est toujours, vous êtes dans Bandgeek Mafia, on parle des westerns les gars, et on est dans le Far West, et on se disait que ce serait bien de revenir d'abord aux westerns classiques, les anciens quoi, c'est-à-dire les années 50, 60, 70.
Oui, alors c'est vrai que c'est un genre qui existe depuis très très longtemps. Il y a même des films muets, hein, des westerns muets.
Ouais, c'est incroyable.
Bon, là, on n'est pas spécialiste, clairement. Enfin, moi, en tout cas, non.
Moi non plus.
Moi, je dirais que le plus vieux western que je connaisse, c'est La Flèche brisée 1950.
Ouais.
C'est un film qui m'a marqué. Alors, je pense que c'était pendant la dernière séance hein, d'Eddie Mitchell.
Broken Arrow.
Bien. Exactement.
Absolument.
Très connu.
Ouais.
Avec James Stewart. Quand même grand acteur pas Hitchcockien,
Hitchcockien,
mais qui joue dans ce western La Flèche brisée. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que je crois que c'est le premier western où dans lequel plutôt les Indiens sont vus plutôt politiquement. Bah ouais, c'est politique en fait.
Ouais.
Positivement.
Ouais.
Jusqu'à présent, les Indiens sont toujours des sauvages, comme tu disais Pablo, ils tuent tout le monde, hein, en particulier les femmes et les enfants. Enfin voilà. Et donc là, on a une autre histoire. Alors ça fait référence à Cochise, enfin bon, tout ça c'est parce qu'on pourrait citer hein, tout un tas de tribus ou de chefs indiens, Geronimo, Cochise, etc. Et donc ce film voilà donne une autre image, je dirais, surtout une image d'une communication possible, voilà, ouais, entre les peuples, si on pourrait dire ça comme ça, une approche humaniste. Voilà. Et donc la représentation des Amérindiens dans le film, elle est vraiment intéressante, voilà.
Ouais. Toi, il y a un film, Romain, qui particulièrement dans les classiques qui t'a marqué.
Alors, il y en a deux qui me sont revenus entre temps, mais je dirais pas dans les classiques. Sauf si on considère, enfin, il est classique parce qu'il a connu beaucoup de succès, mais il est pas ancien. Mmh. Et il y en a un autre que je dirais un peu plus tard, mais si je vous dis Danse avec les loups, est-ce qu'on peut considérer que c'est un grand classique aussi?
Ouais,
d'une certaine
manière, c'est vrai. Un classique avec Kevin Costner.
Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans Danse avec les loups, particulièrement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que là, il y a une vraie place. Tu parlais de
d'empathie pour les, ouais, bien sûr.
Voilà. Mais on est dans les années 90.
Pour les Amérindiens.
Oui, on est 40 ans après la Flèche brisée.
C'est ça, c'est ça.
Tout à fait. Et là, vraiment, les nations autochtones, elles prennent toute leur place. Il y a une vraie place qui n'est pas du tout celle d'avant qui a été présentée, quoi.
Ouais, non, mais c'est une perspective intéressante.
Et là, on entend Rawhide. Alors, Rawhide, c'était une série. C'était pas un film, c'est une série télé. C'est dans cette série qu'a débuté Clint Eastwood avant de faire des films italiens de Sergio Leone. Et vous connaissez cette musique parce qu'on l'entend dans les Blues Brothers.
Ouais, parce qu'en fait, la question souvent que je me suis posée en regardant certains westerns, notamment en réfléchissant aux westerns classiques, et tu parlais de, justement, je pense que Kevin Costner, ça a été un petit peu quelque chose de sous-jacent. C'est, est-ce que les westerns, tels qu'ils nous ont présentés avec le mythe de la frontière, du Far West, ils cachent pas, c'est pas un peu l'arbre pour cacher la forêt du génocide, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses?
Eh ben,
chacun peut y voir midi
à sa porte, hein, mais oui, on peut voir ça. Ça peut être aussi.
Parce qu'il y a quand même une forme de génocide, quoi. On est d'accord.
Ouais, évidemment, on en parlait.
De toute façon, il y a un auteur américain qui dit que les États-Unis ont été construits sur la mort, la violence, quoi.
Ouais.
Donc c'est très clair avec toutes les armes, etc. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire que cette culture de la violence, elle est très 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 très, très forte aux États-Unis. Moins au Canada, par exemple.
Ouais, tout à fait.
Alors qu'au Canada, il y a autant d'armes qu'aux États-Unis, mais il n'y a pas cette culture de.
Avec
de
la fascination pour les armes, là, quoi. Ouais, c'est ça.
Mais c'est la conquête de l'Ouest, comme tu disais. Hein. C'est-à-dire, c'est la frontière. Il faut toujours aller plus loin. On le voit même encore aujourd'hui avec Trump. Hein. Je ne veux pas faire de d'anachronisme, il veut aller plus loin encore.
Mais c'est complètement à l'image.
Ouais. C'est bon. C'est dans cette mentalité de pionnier.
Ouais.
Ouais, clairement.
Poutine dans un autre sens.
Oui, alors voilà. C'est l'impérialisme.
Bah alors Romain, tu avais une petite chronique ou une chroniquette.
Ah, une chroniquette.
Voilà. La chroniquette. La
western chroniquette.
Générique à la bouche. Wow.
Ça part bien.
Mais oui, mais oui. Oh, ah, trop bien. En plus, on a le fouet. C'est formidable. Alors, je vais vous parler de quelque chose, et peut-être même avec un petit son derrière moi. Je meuble un petit peu en attendant.
Non, il est parti.
Mais quel talent, Seb. Vraiment, tu m'impressionnes. Alors, évidemment, ce son-là, c'est iconique du western. Et tout de suite, vous allez retrouver évidemment le film qui est
Le bon, la brute et le truand.
Exactement. Alors, justement, ce dont je voulais vous parler, c'est un petit truc qui me tient à cœur. Quel est le point commun entre Le bon, la brute et le truand, et pour quelques dollars de plus, et puis pour une poignée de dollars?
Avec Clint Eastwood, évidemment.
C'est vrai, mais il y a un autre point commun.
Sergio Leone.
C'est vrai, ouais. Mais il y a
la musique d'Ennio Morricone.
Ouais, et il y a un autre point commun.
L'argent, les dollars.
Oui, et encore un.
Le soleil, le désert.
Ouais, ouais. On est bien. Alors, il n'y en a pas d'autres.
Je cherche le poncho.
Oui.
Okay. Le duel.
Oui.
Le duel.
On chauffe pas du tout.
On chauffe pas du tout. Alors, un des acteurs, parce qu'il y a Gianmaria Volonté dans deux.
Tu chauffes.
Ivan Cliff, il est dans deux.
Et pas du tout non plus. C'était fait exprès pour mettre pas sur la voie.
Bon, bah, vas-y, Romain.
Ok. Et
pourtant, on a une super connaissance du sujet.
Exactement. Et ben, le point commun, c'est qu'ils ont été tournés au même endroit,
en Espagne.
Bah, les gars, bien sûr. En plus, on l'a dit.
On l'a dit. Mais voilà.
Et alors, où, les gars?
Et ben, du côté, alors c'est pas loin d'Almeria, c'est dans cette zone en tout cas.
Au nord d'Almeria.
Ouais, c'est à Tabernas. Et en fait, il y a dans cet endroit-là, ce qui est assez cool, bah, tous les décors qui sont restés sur place. Il y a même une sorte de thématique. Il y a le village un peu des Indiens avec les tipis, tout ça. Il y a là où se figure le saloon. Toutes les choses qui ont été tournées à ce western spaghetti, tu disais Sergio Leone et ainsi de suite. Tout ça, évidemment, on pourrait penser pour les néophytes que ça a pu être tourné sur les vrais décors aux États-Unis.
Mais le Colorado.
Ça a été tourné en Espagne parce que justement le réalisateur a trouvé que c'était l'endroit idéal pour ça. Et donc voilà.
Alors pourquoi? Parce que visuellement, c'est intéressant. Nous, on y est allé, mais explique aux auditeurs ce qu'on voit en dehors des tipis et des ranchs.
Bah parce que la zone fait tout à fait penser au décor qu'on peut supposer des États-Unis de cette époque-là. C'est extrêmement aride. Il y a ce côté un peu presque. Enfin, j'ai envie de dire entre jaune et ocre. Alors, c'est un peu cette couleur-là.
Les canyons, la montagne.
Exactement, absolument.
Le soleil écrasant.
Et tout à fait. C'est tout à fait cette ambiance-là qu'on retrouve dans cette zone-là. Et donc, voilà, c'était simplement pour vous dire que si d'aventure, parce que je crois qu'on, je sais pas si on a mentionné qu'on aime bien Almeria dans cette émission. Peut-être.
On aime bien l'Espagne, hein.
Je crois bien. Peut-être 2000 fois. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça peut être visité. Si un jour vous avez la curiosité d'aller visiter, justement, cette ville qui gagne à être connue, franchement, eh bien, il y a toute cette zone à Tabernas, ça s'appelle. Et j'ajoute aussi qu'il y a un musée qui s'appelle La Casa del Cine, qu'on a failli voir.
Ah oui, on est obligé d'y retourner. Du coup.
Et on ira. Et justement, dans cette maison du cinéma, on peut retrouver des éléments de ces films-là originaux, des affiches, des déguisements, j'allais dire, mais j'allais, je cherche le terme.
Des costumes.
Des costumes, absolument, c'est le terme que, effectivement, je cherchais, je remercie. Et donc, tout ça, on peut le trouver là-bas. Il y a toute une zone qui est dédiée à, justement, aux western spaghetti qui ont été tournés là-bas. Et donc, c'est assez sympa. La visite du musée, je crois, ça coûte vraiment, c'est 3 fois rien. Ça doit être d'ailleurs 3 euros, si je ne m'abuse. Et, alors, ça va au-delà du western, mais c'est un genre qui est évidemment exploité. Il y a aussi, d'autres films, on sort un petit peu certains Indiana Jones, Conan le Barbare aussi, qui a été tourné dans cette zone.
Ah ouais, génial.
Et donc voilà, on peut visiter tout ça. Et il y a même un endroit, parce que alors c'est pas une spéciale Almeria, mais c'est parce que c'est en lien, où John Lennon a vécu dans cette ville. Et ils ont laissé telle quelle la chambre dans laquelle il a séjourné, avec même la salle de bain et ainsi de suite. Il y a toute une histoire par rapport à ça au sein de ce musée qui est vraiment sympathique à visiter. D'ailleurs, il y a un petit jardin aussi à visiter. C'est vraiment très 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 sympa. Donc voilà, je voulais simplement vous parler du lieu qui m'est cher, et en espérant qu'un jour vous auriez la curiosité d'aller faire un tour.
Ça donne
pas
trop envie d'y aller.
Oh bah, tant mieux,
c'est
tant
clair.
Mieux.
Surtout à cette période où on retrouve le soleil.
Oh oui.
On en veut encore plus.
À qui le dis-tu?
Et là, vous écoutez
l'extase of gold.
Voilà, l'extase de l'or. Ennio Morricone.
Alors, c'est amusant, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais quand Metallica fait un concert, c'est toujours la musique en fait qui démarre le concert avant que le groupe arrive sur scène.
D'accord. Carrément. Et tu sais ça pourquoi? Juste par goût, ils ont choisi ça, ou il y a
un... l'extase de l'or.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'ils veulent
la moula. Ils aiment bien la moula.
On aime les dollars.
Ah d'accord.
Vous, je crois que c'est ça.
Non, ça a toujours été ça en fait.
Ouais, je sais. Ouais.
Donc je pense qu'ils sont fans du film.
Ouais,
parce que, en fait, c'est dans, faut le dire, c'est dans le bon, la brute et le truand.
Ouais, tout à fait.
C'est même une scène.
Pablo, on fait une pause musicale ou
ouais,
on continue?
Je crois. Alors, moi, je pense qu'on peut enchaîner sur les Western Spaghetti parce que tu étais en train de les évoquer quand il est tourné là-bas.
Ouais. Et en du plus, coup, on entend la musique.
Parlons-en, les gars. Alors.
Alors, des Western italiens, en fait.
Bah, les Western italiens.
Parce qu'on dit spaghetti, c'est un peu péjoratif.
Ouais, c'est ça.
C'est le nom générique.
C'est ça, c'est le nom un peu générique, mais c'est vrai que c'est un peu. C'est légèrement raciste, en fait. Hein.
Oh, c'est un peu connoté,
on va dire. Bah, effectivement, alors, les grands noms, hein, Sergio Leone, Ennio Morricone, dont on entend la musique.
Donc, Sergio Leone, attention, c'est un réalisateur. Morricone, c'est un compositeur.
C'est ça, exactement. Alors, on a cité Lee Van Cleef.
Alors, qui est un acteur américain qui joue
voilà.
dans les films.
Ouais, tout à fait.
Clint Eastwood aussi.
Ah oui. C'est ça.
Eli Wallach.
Voilà. Et alors, Gianmaria Volonté.
Ouais.
Qui lui est italien par contre.
C'est ça.
Et qui est en fait, assez incroyable.
En fait, c'est assez amusant parce que c'est des productions italiennes, voire des coproductions américano-italiennes. Et avec vraiment des spécificités scénaristiques, on pourrait le dire.
Ouais.
Parce qu'en fait, je crois que la grande différence entre le western classique américain et le western spaghetti, c'est que le western italien, il dépasse complètement le manichéisme qui est récurrent dans les films américains où il y a les bons, les cowboys, les méchants, les indiens.
C'est ça.
Rarement autrement à part dans La Flèche brisée. Donc là, il y a plein d'anti-héros. Il y a des prostituées, il y a de la violence. Il y a un problème d'hygiène corporelle très souvent dans les western spaghetti. Des pendaisons, des mutilations. Enfin, je sais pas si
moi,
pour moi c'est un peu ça quand même.
Ouais, tout à fait. Et on montre quand même un peu plus la violence.
Ouais.
Elle est beaucoup plus éclatante aussi. Hein.
Et puis esthétiquement.
Ouais.
Je sais pas si au niveau de la réalisation, il y a des contre-plongées.
Ouais. Des plans sur les regards qui sont très importants.
Sur les yeux à
hyper
chaque
gros
fois.
Hyper gros plan. Bah ça c'est inventé par Sergio Leone. Voilà. Hyper gros plan des yeux. Comme ça, vous vous souvenez dans Le Bon, la Brute et le Truand, il y a la confrontation.
Ouais,
c'est
même
plus qu'un duel.
Ah,
dans le cimetière.
Ouais, tout à fait.
Avec les trois personnages.
Sad Hill.
C'est excellent.
Ouais. Et c'est vrai que à chaque fois, avec des petites musiques.
À la musique.
Qui te mettent, tu sais, c'est cette petite
ambiance.
Qui te mettent une ambiance et tu te dis, mais quand est-ce qu'elle termine? Puisqu'ils doivent tirer, ils doivent dégainer
à chances.
La fin de la musique. Et c'est juste, enfin voilà, on est tendu comme eux, quoi, en fait.
Ah, c'est vrai que
c'est ça qui est extraordinaire.
Ah ouais, c'est vrai que c'est la musique, elle est très importante, t'as raison, parce que c'est quelquefois elle détonne un peu par rapport au, alors déjà au western traditionnel, mais même par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. Il y a un petit décalage. C'est plein de décalages, en fait, le western spaghetti.
Là, on entend une trompette, par exemple. Non, c'est parce que.
Un trombone.
C'est ça. Non, mais l'harmonica, mine de rien, a instrument typique
de la musique.
Ah oui, bien sûr.
Carrément.
Ah, carrément.
Ça, c'est intéressant de parler de la musique parce que, quand même, l'harmonica, le sifflement. Le sifflement, quoi.
C'est vrai.
Ça fait penser au train qui va arriver.
Tout à fait. Les guitares.
Vrai.
Tu vois, les guitares qui vont arriver à un moment. Les guitares rock, quoi, tu vois, quand même, qu'il a mis.
Alors, moi, c'est pas un western spaghetti, là, dont je me souviens, mais c'est pas grave, ça me fait. Parce qu'on. En fait, il était une fois dans l'Ouest, ça me fait penser au train, parce que là, en fait, c'est le début du film, il y a un train qui va arriver.
Tout à fait.
Mais en fait, je sais pas si vous connaissez ce western. Enfin, si, sûrement vous le connaissez, c'est. Le train sifflera trois fois.
Ah oui, tout à fait.
Il est hyper bien, sur
Exactement. Aussi.
Là, ça me revient, mais c'est pas du tout un film. Alors, Tarantino, dont on parlait tout à l'heure, lui, il est inspiré par les western spaghetti.
Ouais, clairement.
Par Corbucci, là, en particulier. Sergio Corbucci.
Ouais.
Django et tout ça.
Et un autre dont. Je sais plus le nom, Luis.
Alors, je ne sais
Balakoff,
pas.
Bacalov, Luis Bacalov.
Ah, il est italien, lui.
Ouais, qui fait la musique.
Ah oui.
Ouais, qui reprend beaucoup de musique, en fait. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est vrai que les western spaghetti, bah, tu disais, il y a un peu ce côté, presque avant les séries, tu sais, du non-manichéisme, effectivement, des personnages qui sont à la fois bons et mauvais, quoi. Tu prends, par exemple.
Blondin.
Ouais, bah alors Blondin, il est pas si sympa que ça, quand même.
Bah non, il est les deux, en fait.
Il est les deux.
Parfois, il est bon, parfois, il. Parce qu'on dit que c'est le bon, mais.
Ouais, ça se discute.
Ça se discute.
Tuco, il est. Comment dire? C'est une crapule.
Ah.
Il est attachant.
Je pense à Tuco Salamanca, inévitablement.
D'ailleurs, c'est rigolo parce que le bon, la brute et le truand, c'est une traduction de the good, donc le bon.
Ouais.
The bad,
bon,
alors le mauvais, la brute. Bon.
Ouais.
Mais the ugly, en fait, le moche, quoi, le lait.
Le lait.
C'est pas
bizarre,
le truand.
Hein. Ouais, tout
non,
à fait.
C'est vrai.
Ouais,
et en espagnol.
Mais c'est mieux en français.
El bueno, el feo, donc le ugly est resté, y el malo. Donc il y a le bon, le mauvais et le moche, effectivement.
Tout à fait. C'est nous qui avons traduit vraiment différemment.
Mais c'est pas mal, en fait, le bon, la brute et le truand, ça sonne bien.
Ouais.
Ouais,
le moche ou le lait,
ça aurait pas fait si cool.
Alors que Santanza, Lee Van Cleef, lui, il est vraiment.
Ah, mais il est méchant.
Il est vraiment méchant.
Ah, c'est méchant.
Et c'est marrant parce qu'après, c'est choquant de le voir en personnage en bon, dans, tu disais, quelques dollars de plus, c'est ça?
Ouais, ouais. C'est et là. Pour quelques dollars
de plus. Et pour quelques dollars de plus. Là, il est incroyable. Et là, c'est là qu'il y a une petite musique. Ouais. Enfin, Lee Van Cleef, du coup, qui tient pratiquement le premier rôle avec Gianmaria Volonté. Je dirais que Clint Eastwood est presque en retrait puisqu'il il va assister à leur duel, mais sans s'en mêler, quoi. En gros, il va laisser l'autre accomplir sa vengeance. Voilà.
Alors, ça ne ressemble pas à de la musique de western, pourtant ça s'appelle Spaghetti Western. C'est un titre du groupe Primus.
D'accord.
Ah ouais, Primus.
A priori, c'est un instrumental. On écoute juste un extrait si vous voulez. Oui. Pablo, tu peux enchaîner quand tu veux. Ou alors on fait une pause musicale.
Alors moi, je dirais que... Non, parce qu'on a déjà évoqué la question, en fait, des... Bah, si, quand même. Je me posais la question, si vous voulez, deux questions. La question des Amérindiens, on l'a posée. Mais moi, je me posais quand même la question des Noirs, les gars. Où sont les Noirs dans les westerns?
Dans Jungle Unchained.
Les Noirs, les gars, oui.
Où sont-ils?
Dans Jungle Unchained.
Ben c'est vrai que à part là, parce que sinon, ce sont des esclaves.
Alors, dans les séries,
sont totalement invisibilisés, quoi. C'est ça qui est très impressionnant, en fait, quand même.
Alors, on les voit dans certaines séries, je ne sais plus, parce qu'il y a beaucoup, parce qu'on a parlé beaucoup des films. Mm. Mais il y a pas mal de séries western. Il y a Deadwood. Il y a. Moi, j'avais vu Hell on Wheels. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non, pas du tout. Ouais, ouais.
Et dans ces séries, ils ont. Leur présence est quand même plus importante. Mais...
Ouais, parle-nous-en un petit peu peut-être, non?
Ah bon, vous voulez que je vous en parle?
Ouais, carrément.
Ouais, ouais. C'était, non, juste, non, c'était juste pour te mettre sur le grill.
Non, parce c'était que... juste pour...
Non, je pense que ça peut être intéressant de parler des séries maintenant, parce que il y a... Du coup, je pourrais en parler du... Je pense que...
Enfin, bon, alors, une... très vite, je vous en présente deux. Okay. Hell on Wheels. Alors, c'est l'enfer sur roue, c'est-à-dire... c'est la construction du chemin de fer, en fait. Hein, ouais. Voilà, tout simplement. Et en fait, c'est l'histoire d'un... Je crois qu'il est irlandais, le gars qui a... Et en fait, c'est un ancien propriétaire d'esclaves. Vous voyez déjà le lien. Et il est soldat et il est déterminé à se venger. Voilà. Il veut venger le viol et le meurtre de sa femme en traquant et en tuant les soldats de l'Union responsable. Donc là, on est du côté plutôt des sudistes, en fait. Et alors, il se retrouve dans le Nebraska à l'époque de la construction de la ligne de ferroviaire transcontinentale. Et donc, c'est... Alors, le seul reproche que je ferai à cette série, c'est que c'est un peu lent. Oui, on d'accord. aime bien quand même quand il y a de l'action, surtout dans un western.
Ouais.
Donc ça c'est un peu dommage. Sinon il y a Deadwood. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ouais, de nom. J'ai
donc là on est à l'époque des pionniers, donc 1876 apparemment. Enfin pardon, précisément dans les années 70. Et donc Deadwood c'est une ville du Dakota du Sud. Et donc c'est un endroit sans foi ni loi.
D'accord.
Où se retrouvent tous ceux qui ont la fièvre de l'or. Et qui sont attirés donc dans ces montagnes. Et donc là, il y a tout type de personnages qui arrivent. En fait. Mmh. Voilà. Donc moi, je vous conseille ces deux-là, qui sont vraiment bien. Et parce qu'on voit des personnages noirs. Alors, c'est pas forcément ceux qui ont le premier rôle, parce que c'est souvent le cas dans les westerns. Hein. Mmh. Mais moi, je me souviens de La Porte du Paradis. Aussi, ça, c'est un film. La Porte du Paradis de Michael Cimino, alors un film qui a fait un échec total à sa sortie, ça a fait couler le studio.
Ah oui.
Voilà, parce que ça, il a coûté des millions, mais il a rien rapporté. Okay. Et je l'ai revu au cinéma avec Antonio, parce qu'il y a des plans cultes au Shabada, allez-y. Oui. Et c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Là, vraiment, pour le coup, La Porte du Paradis, il faut voir ça.
D'accord.
C'est hyper bien.
Ok.
Alors, par contre, si vous voulez voir des noirs, il y a dans les westerns, Concrete Cowboy, je crois.
D'accord.
Avec Idriss Elba. Donc voilà.
Oui, d'accord. Ouais.
Ouais. Et c'est vrai. Ouais, bah c'est vrai que. Après, moi, bien sûr, j'avais pensé à un Django Unchained comme toi.
Oui, forcément.
Qui est la libération d'un esclave noir et qui va devenir chasseur de primes et qui va accomplir sa vengeance. Enfin, plus qu'une vengeance en fait. Il accomplit lui à la fois une vengeance et il a une quête.
Exactement.
Ouais. Faut pas spoiler peut-être, mais
non, voilà,
une très belle quête en tout cas.
Tout à fait.
C'est une sorte de conte.
Ouais, mais là, vous en dites.
On n'en dit pas assez.
Non. Pas de divulgation.
Non, c'est ça.
Non.
Après, on a parlé des westerns parodiques avec Trinita, mais je sais pas si vous avez grand chose à dire là-dessus. Et puis, moi, je voulais parler des westerns
poétique. Je sais pas si là... on peut parler de ça.
Ah bah j'ai un truc. Alors c'est pas forcément poétique, mais sous un nouvel angle, il y a une forme de poésie. Est-ce que Brokeback Mountain, on peut considérer que c'est un peu... Alors c'est pas western, mais il y a cette esthétique de cowboy.
Ouais, c'est
quoi,
dans la continuité.
Moi je pense.
Tu vois, tu y pensais aussi. Il était dans ton.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Très bien.
Ouais, tout à fait.
C'est dans la continuité, effectivement.
Okay. Qui est un film magnifique à voir, évidemment, absolument.
Parce que c'est des cowboys. C'est pas le Far West, non. Mais c'est des cowboys.
C'est ça.
Et du coup, avec une thématique LGBT, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, oui,
avec des homosexuels.
Tout à fait.
Et puis.
Acteur magnifique qui, malheureusement, a disparu, évidemment.
Ouais, tragiquement. Ouais.
Alors, son nom ?
Je l'ai oublié,
Heath Ledger.
Ben oui, c'est ça.
Bien joué.
En Joker, absolument magnifique.
Et alors il y avait moi il y a Deadman. Il y a Deadman, c'est de Jim Jarmusch avec Johnny Depp.
La musique est géniale.
Et la musique de Neil Young.
Ouais.
Elle est incroyable. Alors là t'as de la guitare électrique hyper saturée de Neil Young. Et ce film, et alors c'est un western particulier parce qu'il est très contemplatif. T'as l'impression que Johnny Depp il est toujours perché, il est toujours.
Aimes les films contemplatifs.
Ouais, pourquoi pas.
Ah je t'assure.
Deadman, ah ouais.
Tu vas adorer.
Deadman.
C'est donc Jim Jarmusch qui est un réalisateur du cinéma, comment dire, indépendant. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment superbe, c'est sublime.
Il y a un film alors avec Depp, oui, je sais pas, ça s'appelle Lone quelque chose, tu sais.
Lone Ranger.
Ouais, c'est ça, c'est Lone Ranger, c'est ça. Hein,
je pense.
Attends. En tout cas, ce film-là, c'est pareil, il m'a toujours donné envie, mais je voulais savoir si vous l'aviez vu.
2013.
Quoi. Ah oui,
ouais, c'est ça. C'est Lone Ranger, naissance d'un héros 2013 avec Johnny Depp.
Et donc le pitch, c'est.
Alors le pitch, c'est Tonto. Le guerrier indien raconte comment John Red, un ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire.
Ok, donc on est bien sur la thématique. J'ai pas eu la chance de voir ce film, mais il m'avait donné envie.
Et là aussi, il y a une relation avec un indien, pour revenir à Deadman, qui est aussi hyper intéressante. On est dans le mysticisme.
C'est un film un peu philosophique.
Ouais, un peu. Il y a quelque chose comme ça. Hein.
Il y a des références au poète. Alors j'ai oublié son nom évidemment.
Ah oui, Blake.
Voilà,
William Blake.
Parce que il se fait appeler comme ça, il se fait appeler William Blake,
c'est ça. C'est magnifique.
Tout ça fait des belles refs les gars.
Non, une petite pause.
Et une petite pause musicale, j'allais te le suggérer.
Alors les gars, nous avons beaucoup de choses dans notre panier ce soir. Et une demande de Romain, les Cowboys Fringants.
Ah oui.
Mais c'est quoi donc ?
Eh ben c'est un groupe
québécois.
Québécois absolument, c'est ça. Et le titre alors n'y voyez pas un lien avec l'actualité, mais
si l'Amérique pleure.
Ouais. Alors c'est pour d'autres raisons, mais je vous suggère d'écouter les paroles. Et c'est pas forcément extrêmement fun les paroles, mais voilà, c'est un groupe qui est sympa et donc si vous connaissez pas, à découvrir. Voilà,
tout simplement. C'est maintenant dans Bande Geek Mafia
sur Radio G. 101.5, la radio qui va les meilleurs murs.
Bike. Demain soir, j'suis à Montmagny. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike. Mais tu vois du pays, surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que j'me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour
pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
You call me? Well, if you give me a chance, I was gonna call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit.
Oh brother, you're dead man.
Oh le mec il prend cher. Bah écoutez, ouais donc là on était en train de discuter de ce groupe québécois. C'est vrai que c'est vraiment sympa quoi. Et je pensais juste à un petit truc en fait. C'est toute la musique. Il y a pas mal de musique donc qu'on a évoqué, mais on n'a pas évoqué la country qui était un peu présente aussi dans ce groupe. Et c'est vrai que la musique country, elle fait aussi partie du western, du saloon quoi, non?
Oui bien sûr. Non, mais pas... Oui,
je et des bars, et des whisky bars.
Alors là, les dans
l'Alabama,
Alabama Song. Bon, est-ce qu'il y a un film de Clint Eastwood qui se passe en Alabama?
Peut-être
bien.
De Clint Eastwood. Je crois que tu voulais parler des femmes dans le western avant, mais
juste après.
Juste après, ok. Alors Clint Eastwood, donc un grand acteur. Il a fait beaucoup de films, il en a réalisé. Il est aussi un grand réalisateur. Bien sûr, je ne vais pas vous reparler de la trilogie du dollar, on en a déjà parlé, donc dans les années 60, c'est ce film italien. Après, il revient aux États-Unis et donc il travaille avec Ted Post, qui va réaliser d'ailleurs un épisode de l'inspecteur Harry, qui va réaliser Pendez-les haut et court en 1968. Cira Torrid, tous ces films. Et puis, Clint Eastwood lui-même va arriver à réaliser son premier western en 73, c'est L'homme des hautes plaines.
Ah oui, c'est vrai.
Il vient sauver un petit village.
Celui-là, il paraît qu'il est vraiment bien.
Ah, il est génial.
Ouais.
Et après, en 76, il fait, comme ça a bien marché, L'homme des hautes plaines, il fait José Wells hors la loi, toujours réalisé par Clint. Donc là, c'est un ancien franc-tireur qui a assisté au massacre de sa famille. Et donc, il constitue un peu autour de lui une tribu, pour se venger, toujours. 85, Pablo, on en parlait tout à l'heure en off, Pale Rider, le cavalier solitaire. Oui. Là, c'est un peu le négatif inversé de L'homme des hautes plaines, parce que c'est presque le même scénario, mais là, c'est une figure. C'est une figure christique plutôt que démoniaque. Voilà.
Ouais.
Et on se demande même, souvent je me demande en regardant ce film si c'est pas un fantôme. Mais bon. Et puis le chef-d'œuvre, 1992, impitoyable, Unforgiven. Alors là, c'est Clint à son plus haut niveau en tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur, parce que c'est un western qui est adulé de tous. La photo elle est moderne, les décors sont, voilà, sont terribles. Et puis il y a, ah, on peut rendre hommage à un acteur qui est mort récemment et qui joue dans le film, c'est Gene Hackman.
Ah bah oui, oui. Ouais. Voilà, dans des circonstances folles, vous avez entendu ce truc-là?
Non.
Ça, c'est fou. Non, mais, alors attends, bah, c'est un petit aparté, hein, désolé les gars, mais j'ai entendu ça aujourd'hui sur Inter, on les cite, hein, les sources.
Ouais, ouais.
Il meurt, donc Gene Hackman. Mmh. Il, en fait, les si je dis pas de bêtises, hein, les secouristes, enfin les secouristes arrivent. Il est mort, sa femme est morte et son chien est mort.
Oh,
donc
ouais.
Donc ils arrivent, ils voient les trois dans un mauvais état, mais c'est comme ça. Et ils se demandent quel est le lien. Et ils ont même cru que c'était qu'il y avait quelque chose. Et en fait, c'est apparemment
le monoxyde de carbone.
Non, mais oui, ils ont pensé à ça. Ils ont regardé les fenêtres nickel. Et alors le truc, l'hypothèse qui a été retenue, elle est folle. C'est-à-dire lui est mort, son pacemaker était défaillant. Donc en fait, il aurait fait un arrêt. Sa femme, apeurée, serait allée courir chercher des médicaments dans la... Parce qu'en fait, elle a été retrouvée au sol au milieu de plein de pilules. Mmh. Donc en fait, elle serait morte en tombant pour aller chercher des pilules pour Gene Hackman. Mmh. Et en allant dans la salle de bain, elle a fermé la porte sur le chien qui restait coincé et qui est mort de déshydratation. C'est horrible.
C'est horrible.
Non mais c'est fou. Mais
tu sais, tous les ans, il y a les morts les plus idiotes du monde.
Ouais, c'est ça.
Bon,
ouais,
là, on est là,
il parlait
là,
de...
On est bien là.
Ça fait penser clin d'œil au film Destination Finale, tu sais, mais ouais. C'est vraiment ça. C'est le truc, le concours des circonstances incroyable et finalement, c'est ce qui se serait passé.
Oh là là, c'est paix à son âme en tout cas.
Bien sûr.
Ah ouais, ouais, ouais.
On ne rit pas.
Allez,
des
morts.
Hop.
Ouais, et alors justement sur Clint Eastwood, moi j'avais quand même une petite question parce que toujours je me suis posé la question, c'est quoi un petit peu sa philosophie, sa pensée, parce que c'est vrai.
Oh
que
non, mais là c'est pas le sujet.
Ah ben bah, non, mais quand même. Mais quand même parce que
mais non, mais surtout qu'on n'a pas le temps. Alors la philosophie Clint Eastwood, c'est au départ c'est un républicain libertarien. Alors aujourd'hui on voit ce que ça veut dire. Mmh. Ouais. En fait, ça correspond bien à ses personnages. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère que l'État n'a pas à s'ingérer dans la vie des. C'est un peu des anarchistes de droite.
Ouais,
en fait,
oui, c'est vrai.
Voilà. Sauf qu'en fait, il a évolué en même temps que sa discographie
aussi puisqu'il joue du jazz. Hein.
Ouais, alors c'est son fils qui est un grand jazzman aussi, ouais, Kyle Eastwood, mais c'est un fan de jazz tout à fait. D'ailleurs, il a fait un film, hein, Round Midnight. Enfin bref, on ne sait pas le sujet.
On se garde,
hein, Charlie Parker. Et donc là, Clint Eastwood, en fait, plus il évolue. En fait, dans le bon sens, si j'ose dire.
C'est
horrible ce que je dis, mais
ouais. Il évolue dans le camp du bien.
Voilà.
C'est ça. On va dire
en
ça.
En fait, il est de moins en moins républicain et de moins en moins libertarien. Ça se voit dans ses films.
Ouais,
en fait.
Ouais,
il y a plein de films.
C'est vrai que Grand Torino n'a rien à voir avec l'inspecteur Harry, par exemple. Quoi,
alors, Grand Torino, par exemple, ou même mince, j'ai oublié le titre. De
Ah oui, Million Dollar Baby. Bien sûr.
Voilà, sur l'euthanasie. Enfin, il a carrément évolué. Voilà, Clint Eastwood. Alors, c'est vrai que certains films sont discutables, on peut le dire, mais bon, c'est
comme ça. Ah, mais c'est sûr.
Mais
je voulais avoir ton avis.
Mine de rien, je préfère quelqu'un qui évolue dans le bon sens.
Ouais, c'est clair.
Alors, moi, je voulais parler un petit peu des. Bah, je voulais vous poser une question sur les femmes maintenant, les femmes dans le western.
Ouais, demander
c'est
Romain.
Vrai que. Toi, t'avais une idée.
Alors, c'est vrai que les
femmes sont souvent vues soit comme des mères, soit comme des fiancées épeurées. Ou des prostituées.
C'est vrai, elles n'ont pas souvent le beau rôle. Parfois, on voit, alors j'ai plus de nom de films en tête, mais des fois on voit souvent que mine de rien, il y a des films où c'est relativement, j'ai envie de dire, certes elles sont cantonnées à des rôles comme ceux que tu viens de citer, mais on voit qu'en fait, par exemple dans le camp des prostituées, en réalité elles sont intelligentes, elles tirent les ficelles, tu vois, je veux dire, elles ont l'air d'être en backup comme ça, mais en réalité elles contrôlent les choses et c'est elles qui gèrent. J'aime bien ce genre de montée dans le film. Il y a 2-3 films comme ça où on perçoit ça et ça fait écho. Alors moi il y a un film je vous le citais tout à l'heure en off, mais alors c'est pas du tout un western puisque on est plus sur le Mexique et 1910, tu vois, après révolution mexicaine.
Ouais, mais...
c'est Banditas avec Penélope Cruz et Salma Hayek. C'est le genre de ce film là voilà, c'est plutôt mignon et ça casse pas 3 pattes à un canard comme disent les jeunes.
Mais sympa.
Comme disent les jeunes.
Alors moi j'avais une série qui met en valeur une femme et un indien, enfin un amérindien plutôt. Ça s'appelle, la série s'appelle The English avec Emily Blunt.
Oui, c'est vrai.
Et elle fait un peu exception, c'est une série qui est très poétique, qui met en scène une femme qui cherche la vengeance et un indien pony. Alors, on est aux États-Unis en 1890, à la recherche de l'homme qu'elle tient pour responsable de la mort de son fils. Cornelia Locke part dans l'Ouest sauvage. Cette aristocrate anglaise, franchement tu te dis, elle a rien à faire là, hein, croise alors la route d'Eli Whip, un amérindien pony
et ancien éclaireur de cavalerie. Donc c'est vraiment super, allez la voir. The English, c'est très sympa.
Un film avec des femmes, un western avec des femmes, c'est Les Proies. Parce que j'y pense, c'est un film avec Clint Eastwood,
oui,
réalisé par Don Siegel. C'est pendant la guerre de sécession, enfin c'est la fin de la guerre de sécession, et Clint Eastwood, c'est un soldat nordiste, il est blessé, ouais. Il est recueilli par des femmes,
ah bah voilà,
dans une maison, et devient un peu l'objet du désir de toutes ces femmes.
Oh.
Voilà, et en fait, elle le séquestre. Enfin, c'est misery avant l'heure, quoi.
Waouh.
Et ouais, ça s'appelle Les Proies, c'est hyper bien.
D'accord.
On n'a pas parlé.
C'est plutôt lui la proie.
Ouais, c'est ça. Exactement.
On n'a pas parlé forcément des mythes.
Parce qu'en fait, le titre originel, c'était The Beguiled. Ça veut dire le séduit. Celui qui est séduit.
D'accord.
Pardon, vas-y.
Non, mais pas du tout. Mais on n'a pas parlé aussi de quelques mythes comme Billy the Kid et des choses comme ça, évidemment. Et
bien sûr.
Calamity Jane.
Ah, bah, absolument. Bah, tiens, on parle des femmes, ça tombe bien.
Voilà.
Exactement. Calamity Jane, on adore.
Voilà.
Et donc ça me fait faire la transition avec Lucky Luke.
Voilà, mais c'est trop bien.
Parce qu'il y a un épisode de Lucky Luke, enfin un album de Lucky Luke qui s'appelle Calamity Jane, si je me trompe pas.
Tout à fait.
On est d'accord.
Ouais, on est bien d'accord.
Et Mad Dalton.
Ouais.
Parce qu'on parlait des
femmes
dans le Western. Quand même, parce que c'est elle qui commande.
Voilà, c'est quand même elle la patronne.
Il y a un peu de musique de fond pendant ce que.
C'est la patronne. Et alors, ouais, tu disais.
Alors, je disais par rapport au BD. Parce que Pablo, tout à l'heure, tu faisais référence assez rapidement à Blueberry,
bah ouais,
à une série de BD de western franco-belge créée par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud. Voilà. Et qui, je sais pas si ça existe toujours, s'il y a toujours des Blueberry qui sortent. Seb est pas là.
Il me semble que si.
Ouais.
Ouais, j'en ai vu dernièrement.
Et donc Blueberry, voilà, c'est vraiment la BD qui a démarré dans les années 60, je crois, 70, dans Pilote. Et puis, bah voilà, toute cette série chez Dargo, elle est culte, quoi.
Elle est culte.
Et ce qui est culte aussi, c'est Lucky Luke, et bien évidemment, de Maurice et Goscinny. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Évidemment, le cowboy, mais le cowboy solitaire, sur son cheval Jolly Jumper et avec son chien rentemplant.
Et c'est drôle parce que t'as la BD où il a encore la clope et pas l'épi de maïs.
C'est une BD que j'ai eue quand j'étais enfant.
C'est ça qui est marrant parce qu'il y a eu la censure après. Il avait un épi de maïs à la place de la clope.
Exactement. Et donc là, c'est la corde du pendu et autres histoires. C'est l'histoire courte. Mais évidemment, il y a des épisodes cultes avec les Dalton en particulier. La corde du pendu, etc. Enfin, c'est
on se rappelle aussi du rôle du croque-mort qui est des. Tu sais, ce qui a une tête bien particulière. Qui est... Et puis les vautours.
Alors, une parodie de Lucky Luke, ça c'est hyper drôle, ça s'appelle Jolly Jumper ne répond plus, par Bouzard. Guillaume Bouzard, un super dessinateur de BD, alors là complètement contemporain. C'est Lucky Luke, l'homme qui a eu l'idée de tirer sur son ombre.
Ouais. Ah,
effectivement, quand vous regardez, est-ce qu'on voit au dos du livre. Voilà, donc c'est une parodie, c'est pour s'amuser. Et rendre hommage aussi, bien sûr, à Lucky Luke. Et là, le pauvre Lucky Luke, il est bien embarrassé parce que Jolly Jumper ne répond plus. Voilà.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, peut-être, c'est un mot. Est-ce que vous avez vu la série Lucky Luke avec du jardin, quoi. Il a fait quand même un truc. Mais apparemment, ça n'a pas trouvé son public. Bon, bah voilà, écoute, on a tout dit.
Ouais,
puisqu'on est dans Band Geek Mafia, j'en profite, je glisse un comics. Je glisse Ghost Rider. Alors, le Ghost Rider, vous le connaissez, c'est ce démon avec le crâne qui s'enflamme, mais sur une moto.
C'est Nicolas Cage.
Oui, alors dans les films, c'est Nicolas Cage. Et alors là, c'est publié chez Panini Comics. C'est La Vallée des Larmes, si vous le trouvez, c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'en fait, c'est Ghost Rider, mais au temps du western, à l'époque. Voilà, du Far West.
Incroyable.
Donc il n'est pas sur une moto, il est sur un cheval. Et bien sûr, il y a toujours son crâne qui s'enflamme avec des images hallucinantes.
Ah ouais, c'est beau.
Voilà,
c'est très, très beau.
Hyper bien fait.
Tout à fait.
Moi, je vous conseille, si vous aimez les comics, si vous aimez les Marvel, etc., Ghost Rider, La Vallée des Larmes, chez Panini Comics.
Mais ouais, c'est très sympa.
C'est bien pour terminer par ça.
Pablo, pourquoi ce choix?
Parce que un petit clin d'œil à nos années 90 avec IAM. Et puis un bon son brut pour les truands, parce que effectivement tu parlais des
le titre.
Et quand même le
un
titre
bon son brut,
et c'est vrai que les cowboys c'est quand même des gens qui sont soit un peu crasseux, soit ils clopent, ils boivent du whisky.
C'est vrai.
Je veux dire, ils sont pas politiquement corrects, les mecs.
On aime jusqu'à maintenant les
et avec modération, mais eux c'est sans. Bon les gars, je crois qu'on va bientôt arriver à la fin de cette émission. C'était un plaisir.
C'est ça. On va devoir regagner le saloon d'ici peu. On va filer vers le saloon.
Ouais, il y a Jolly Jumper qui nous attend en bas.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Écoutez les gars, on embrasse
tout le monde
bien fort.
On vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.
Belle semaine, à dans 15 jours pour une émission spéciale avec Seb aux commandes.
C'est ça.
Et on se quitte avec Tequila Sunrise parce qu'on a soif.
Exact. C'est ça. On y va.
Salut.
Ciao.
Salut, bonne soirée.
Va producto pero que lo Me va aquí,
¿no? ¿Sabes qué, compa? Yo aquí, en el norte, yo soy el que controla. Yo te lo puedo mover todo.
80, 100 pájaros a la semana.
Tenemos toda la feria y limpio ese.
Pues bueno, aquí tenemos un negocio. Vamos a ser hombres ricos. Tomamos, ¿no? El gusano.
Para la salud.
Para la salud. Primero yo.
Eat the world, motherfucker. Tequila spice, hot night, feeling right, sipping on Jose Cuervo.